Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.
Il est 6h, vous écoutez la quotidienne d'actualité locale de Syllabe. En 2023, la moyenne de la température mondiale a été de 1,52 degrés au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. L'année dernière, la COP28 soulignait l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Un an après, ce seuil est donc déjà largement dépassé, avec les conséquences que l'on connaît. Les dernières inondations en Espagne, ayant causé la mort de plus de 220 personnes, parlent d'elles-mêmes. Pourtant, en ce moment, à la COP29 de Bakou, en Azerbaïdjan, ceux et celles qui pourraient faire changer les choses reculent dramatiquement. L'accord sur une aide financière pour les pays les plus pauvres patine, et les dirigeants et dirigeantes du G20 brillent par leur absence. Eux ne risquent sûrement pas de voir leur maison engloutie par les eaux ou de mourir de chaleur. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Tout de suite, le flash de Cyrienne.
Les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. C'est ce qu'affirme le comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques de l'armée de Benjamin Netanyahou. Un rapport mettant en exergue les pertes civiles massives et les conditions imposées aux Palestiniens et Palestiniennes sur place, et mettant ainsi leur vie en danger intentionnellement. Et ce, alors qu'hier, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé un nouveau bilan. Plus de 43 000 morts dans les territoires palestiniens. Le dossier devrait être présenté à l'Assemblée générale de l'ONU à New York ce lundi. Parlons droits des femmes désormais. L'Irak s'apprête à abaisser l'âge de consentement sexuel de 18 ans à 9 ans. Un recul dévastateur pour les femmes et les filles qui inquiètent les ONG. Julie nous en dit plus sur la situation.
Effectivement, Cyriane, la situation actuelle en Irak est très inquiétante. Plusieurs ONG ont pointé du doigt cette demande d'amendement faite par le Parlement irakien en août dernier. Ce projet de loi envisage de réduire considérablement le droit des femmes et des filles. En plus de faire passer l'âge de consentement sexuel de 18 à 9 ans, il rendrait le divorce et l'héritage des femmes presque impossible et légaliserait le mariage d'enfants. Une contradiction totale avec le droit international garantissant la protection des filles et des femmes. L'adoption de ce projet de loi par le Parlement irakien constituerait un recul dévastateur pour les femmes et les filles irakiennes, explique Sarah Sambar, chercheuse auprès de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. Selon elle, les filles devraient pouvoir aller à l'école ou jouer dans une cour de récréation au lieu d'être obligées de porter une robe de mariée. D'après un rapport de l'UNICEF de 2023, 28% des Irakiennes se marient avant leur majorité. Pour 22% de ces mineures, elles ont moins de 14 ans. On s'inquiète sur l'augmentation des violences sexuelles et psychologiques pouvant en découler, mais également sur l'accès à l'éducation et au travail des femmes qui pourraient se voir réduits. De nombreuses organisations militantes pour le droit humain en Irak multiplient les efforts pour contrer cette loi. Il faut dire que le Parlement irakien n'en est pas à sa première tentative. En 2014 et en 2017, il avait déjà proposé de réduire l'âge de consentement. Ces deux propositions avaient échoué. Mais depuis 2022, ce sont les groupes religieux chiites qui dominent le pays. Cette réforme s'inscrit dans leur stratégie politique visant à renforcer l'autorité religieuse en Irak. Le gouvernement irakien ne cesse de menacer les droits humains, une préoccupation grandissante pour le reste du monde.
Merci Julie pour ton papier.
Merci.
Et merci à Cléo pour l'écriture aussi, la coécriture. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité immédiate, telles sont les réquisitions émises par le parquet de Paris à l'encontre de Marine Le Pen. Elle est poursuivie en tant qu'ancienne présidente du RN, Rassemblement National, et ex-députée européenne dans l'affaire des faux assistants parlementaires. La chef du parti pourrait se voir privée d'une candidature à la présidentielle de 2027. Les membres du RN dénoncent un, je cite, « procès politique ». Il est réclamé au parti une amende de 4,3 millions d'euros, dont 2,3 millions avec sursis et la confiscation de 1 million déjà saisie. Mauvaise nouvelle pour nos forêts, il faudra encore attendre un an avant l'application d'une loi visant à interdire la commercialisation dans l'Union européenne de produits issus de la déforestation. Les terres déboisées après 2020 sont concernées. Dans le viseur de l'Europe, des marchandises comme le cacao, le café ou encore l'huile de palme. La cause de ce report d'application ? La pression de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Brésil ou encore l'Allemagne, sur le Parlement européen. Le retardement de la loi a été voté par une coalition entre la droite et l'extrême droite, espérant ainsi pouvoir alléger les normes des mesures en question. La FNSEA est en colère, ça on l'a vu hier avec Aglaé, mais le mois dernier c'était les paysans et paysannes qui ont fait entendre leur mécontentement. Le mois dernier, à Retiers, la Confédération Paysanne organisait un rassemblement au sein des plus gros sites de production de lait du géant Lactalis. Eva s'y est rendue.
Tout commence avec un tracteur. Dans la foule de paysans et paysannes, je sympathise avec Michel, un ancien producteur de lait.
Vous vous rendez compte, ils ont encouragé les gens à produire, à investir. Voilà. Et maintenant, ils disent on vous ramasse plus.
Comment ça, on vous ramasse plus? Attendez, Charlotte Carglonou, productrice de lait et co-porte-parole de la Confédération Paysanne, ainsi que Florian Morin, producteur de lait en Mayenne, nous explique.
Lactalis a décidé d'arrêter la collecte de 450 millions de litres de lait au moins dans les pays de la Loire et le Grand Est, et aussi d'arrêter de collecter 26 productrices bio en Bretagne.
La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est dangereuse et met à mal les éleveurs et les éleveuses les plus isolés qui risquent de ne pas trouver de laiterie pour vendre leur lait dans les délais de préavis de rupture de contrat qui sont établis à 12 mois.
Après ces dernières annonces de Lactalis, plus d'une soixantaine de personnes, dont Michel, se sont mobilisées en seulement quelques jours. Car pour eux, il est clair que...
Lactalis nous enfume ! Lactalis nous enfume ! Lactalis nous enfume ! Lactalis !
Face à ce brusque retrait des collecteurs, les producteurs avancent et s'imposent avec des demandes.
Nous demandons aux décideurs donc d'assumer leur rôle d'arbitre des relations entre les acteurs, d'agir pour que cessent ces comportements de prédation de la valeur ajoutée par le travail des paysans et des paysannes. Il n'y aura pas d'avenir dans les campagnes, dans un système compétitif où on met les paysans et les paysannes en concurrence les uns avec les autres. Il n'y aura pas d'avenir dans les campagnes sans solidarité, sans remise en place d'un rapport de force et une justice équitable pour les paysans et les paysannes.
Un message puissant que Stéphane Gallet, secrétaire national de la Confédération Paysanne, n'a pas fini de faire entendre, selon Lucille, organisatrice de la mobilisation.
C'est la première action là, à la situation de Lactalis, mais il y en aura peut-être d'autres parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse de leur part.
Et une réponse de leur part est encore attendue. En tout cas, les agriculteurs et agricultrices restent prêts pour une potentielle nouvelle mobilisation.
Merci Eva pour ton reportage. Dimanche dernier, la petite planche Association Rennaise de Palais Breton organisait son tournoi annuel à la Halle Marteneau. Palais, restauration, animation et stand de créateurs, un événement placé sous le signe de la convivialité. Jean s'y est rendu.
Dimanche 10 novembre, l'association de Palais Breton, la petite planche, organisait son tournoi annuel à la Halle Marteneau de Rennes.
C'est bien, il est bien là.
Colin Mérand, co-président de l'association, nous présente l'événement. Un tournoi de palais, mais pas que.
On a 70 équipes aujourd'hui, donc 140 joueurs, 35 planches qui sont là dans la Halle Marteneau. On a des gens qui viennent d'un peu partout en Bretagne pour cet événement qui est maintenant devenu assez connu dans le monde du palais. Et à côté, un autre événement qui s'appelle le Petit Marché. On a une dizaine de stands de créateurs et de créatrices qui sont là. Deux animateurs qui font des petits jeux, des bingos, le jeu du palais, toujours dans la rigolade et la bonne humeur. L'idée, c'est de faire des animations en plus de ce tournoi de palais, parce qu'on est une asso de palais avant tout, mais on est aussi là pour la convivialité. Le palais, ça rassemble, ça rapproche. Autour d'une planche, on discute, on joue et on se rencontre.
Alors, on en est où des scores ?
J'aime bien gagner et tricher au palais. J'ai fait quelques très belles parties et je me suis dit que j'allais m'arrêter là.
Ce que j'aime bien aussi, c'est la complicité avec le partenaire, être en phase, et puis tu joues pour être heureux. C'est pour ça que j'aime bien le palais.
Ce que j'aime, c'est le petit côté où tu peux jouer avec tes potes et chambrer un peu.
J'adore ça. Surtout pour le plaisir de battre mon père.
On s'est motivé avec un collègue et donc voilà, on est venu faire ce petit tournoi de palais dominical à Rennes. J'ai vu des bons matchs carrément. Et là, c'est la finale en ce moment et ça joue bien monstrueux.
Après la remise des prix, les gagnants du tournoi, Massy et Damien, nous livrent leurs ressentis sur la partie finale.
C'était très serré.
jusqu'au bout. On a essayé de rien lâcher. Sur chaque point, on n'a pas voulu en faire trop. Et en même temps, à chaque fois, on a réussi à faire un point, deux points pour finir par gagner 15-12.
On avait toute la famille, le cop là, qui était là, les copains, les enfants. Donc c'est cool de partager ça avec eux aussi. Voilà.
Plus qu'un événement sportif, c'est avant tout une journée de convivialité qui séduit les participants.
Je suis venu ici pour prendre du plaisir. Le palais, le plaisir, les gens.
Je trouve ça très sympa. Je trouve ça chouette que ça se passe en centre-ville de Rennes parce que du coup, c'est accessible pour tout le monde. Si t'es pas hyper fan du palais, tu peux suivre les interventions de Alice et Edou qui sont absolument incroyables.
Je pense que la société devrait tendre vers là, de continuer à rassembler des gens, à les mélanger sur une passion commune où en fait, le métier, l'âge, il n'y a rien qui prime en fait. T'es juste là pour faire un jeu.
C'était que du love.
Voilà. Amateurs ou amatrices de Palais Breton, La Petite Planche vous invite à lancer de la fonte tous les mercredis et vendredis de l'hiver au Cercle Paul Bert du Centre et l'été au Parc des Horizons. Et si vous devez vous équiper en conséquence pour pratiquer ce sport absolument extrême qu'est le Palais Breton, n'hésitez pas à faire un bon geste. Lors de votre prochain passage au Décathlon de Champy, n'hésitez vraiment pas à faire un don à la Croix-Rouge. L'organisation y organise une collecte de vêtements chauds pour les plus démunis. Rendez-vous entre le 16 et le 18 novembre dans l'enseigne.
Cyriane, je crois que tu nous as concocté un programme du week-end haut en couleur et en couture.
Effectivement, Héloïse. Tout d'abord, commençons en douceur avec un ensemble de rendez-vous pour les petits, petites et les grands, grandes au FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, à l'occasion du WIFRAC 2024. Oui, je sais, ils se sont pas trop foulés pour le nom. Les samedis et dimanches à venir, lors de ces journées nationales des Fonds Régionaux d'Art Contemporain, c'est tout un panel d'expos, de visites, de projections, d'ateliers et de rencontres qui sont à découvrir. Le tout en entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur fracbretagne.fr. Et puis bon, je sais, le musée, des fois, quand on est un peu hyperactif, c'est un peu lent, un peu calme, il n'y a pas beaucoup de bruit, quoi. Enfin, un peu d'ambiance. Donc, si vous voulez vous déchaîner sur le dance floor et en prime voir des tenues de haut vol ce week-end, eh ben, rendez-vous aux ateliers du vent pour le Kiki Ball. Événement ballroom organisé en parallèle de la soirée du Trends Day of Celebration. Au programme, en plus du ballroom, expo photo, bibliothèque afro-diasporique et rencontres avec les associations Ouest Trans, Les Pétrolettes et Cadres Rebelles. L'AE photographe Roméo sera de la partie toute la soirée pour immortaliser l'événement, alors soyez en flic si vous y allez, s'il vous plaît. On veut vos meilleurs outfits.
Super, Cyriane, tu y seras, toi ?
Oui, peut-être, je
serai. Avis aux fans de Cyriane, alors je sais qu'elle en a beaucoup qui l'écoutent chaque
soir. Je sais.
Elle sera là, si vous voulez, en autographe.
Je serai là.
On parle Nuit du Cirque dans 6h avant minuit ce soir.
Minuit,
pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et oui, aujourd'hui, on parle de la nuit du cirque qui a lieu ce week-end. Pour en parler, elle est toute en camailleux de vert, gilet pomme, foulard plus émeraude. Isabelle Salio est coordinatrice du pôle territoire à Aéroup. Bonsoir.
Bonsoir.
Déjà, pour commencer, peut-être une question de base, c'est quoi Aéroup ?
Alors Aéroup, c'est une asso qui montre le cirque contemporain, donc qui a deux pôles en fait, qui accompagne des créations et qui fait tourner des compagnies dans la France et dans le monde entier. Et puis également, on organise des résidences d'artistes, des spectacles, des actions culturelles à Rennes, Rennes Métropole et sur l'ensemble du département.
Donc, depuis le printemps dernier, vous avez déménagé dans un nouveau lieu à Saint-Jacques-de-la-Lande, Le Milieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Mais oui. Donc, on y est même depuis un peu plus que le printemps. On est arrivé au mois de janvier 2024. Donc, dans ce lieu à Saint-Jacques-de-la-Lande, pendant 20 ans, y officiait le théâtre Dromesco. Donc ils sont partis à la retraite et puis donc c'est Rennes Métropole qui nous a invité à investir ce lieu qui est un équipement culturel métropolitain.
D'accord, bah merci. Et du coup pour la nuit du cirque qui aura lieu ce week-end, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc déjà, qu'est-ce que c'est la nuit du cirque et depuis combien de temps ça existe ?
Alors la nuit du cirque, c'est un événement qui est national, mais aussi qui se passe à l'étranger. C'est la 6e édition, donc c'est assez récent en fait. Donc c'est à l'instar de la nuit des musées, la nuit du livre, etc. Et ça a lieu, on dit la nuit du cirque, mais ça a lieu sur un week-end qui sera du 15 au 17 novembre. Donc le principe, c'est de montrer toutes les formes de cirque qui peuvent exister. Je crois qu'il y a à peu près 250 représentations en France et à l'étranger pendant ce week-end. Et donc le cirque, c'est une discipline en mutation permanente qui mêle plusieurs genres artistiques. Donc il y a des performances, mais il y a aussi de la musique, il y a de la danse, on a du théâtre, etc. Et donc comme c'est en mutation permanente, ça permet aussi de montrer toute la diversité de la création et également comment le cirque s'engage aussi dans des combats sociétaux, environnementaux, dans sa dimension aussi interculturelle et intergénérationnelle.
Donc du coup, le cirque, souvent on associe ça aux enfants, mais la nuit du cirque, c'est aussi le moyen de nous rappeler que c'est pas que pour les petits. Donc les spectacles, ils sont destinés à un public de plutôt quel âge ?
Les spectacles, c'est aussi ce qui est génial dans le cirque contemporain, qui du coup est pour tous les publics. Là, dans ce qu'on va proposer, il y aura 9 propositions. Et vraiment, c'est pour toute la famille, des tout petits, ça commence à 6 mois, jusqu'à pas d'âge,
nos
en fait.
Limites.
C'est ça.
Et du coup, en parlant de ces 9 spectacles, comment est-ce que vous avez choisi la programmation de cette année ? Et c'était quoi un peu votre ligne pour cette édition, s'il y en a une ?
Notre ligne, on est... iRoupe fait toujours... attention à montrer vraiment la création déjà, donc des artistes en création qui se réinventent, j'en parlais, comme veut le montrer la nuit du cirque. Donc on a essayé d'avoir déjà plusieurs disciplines de cirque, donc on aura de la magie, du jonglage, de l'acrobatie, on aura aussi des choses plutôt virtuelles. Essayer aussi d'aller sur tous les publics. Qu'on montre des enjeux de société aussi, avec toutes ces formes.
D'accord. Donc du coup, maintenant, si on fait un peu le tour de votre programmation dans l'ordre chronologique, on peut commencer par parler de la présentation publique de la compagnie EAEO autour du projet Biographie. C'est vendredi 15 à 18h. En quoi consiste le spectacle ?
Alors là, voilà, c'est une sortie de résidence, donc on va avoir une étape de travail. Donc la compagnie EAEO, là elle va nous présenter 3 artistes sur scène. D'abord une acrobate jongleuse avec un rappeur slammer et un musicien. Donc l'idée de cette création, c'est de montrer comment la jongleuse suit en fait le flow du rappeur slammer, mais aussi le flow de ses pensées. Donc comment tout ça se répond avec la musique qui est sur un rythme de 160 BPM. Donc on est vraiment là-dedans, c'est très énergisant comme spectacle. Au gré des pensées de cette jongleuse, qui sont racontées donc par le slammer, on va entendre parler de maternité, de questions existentielles, d'euphorie, de risques, prise de risque, comment on tombe, comment on se relève, les doutes de la vie, les ratés, les ratés, mais aussi les réussites. Donc c'est aussi une biographie, et d'ailleurs le nom de cette création s'appelle Biographie.
D'accord. Donc le lendemain, le samedi 16 à 18h au milieu, la compagnie propose aussi des ateliers adultes-enfants, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Chaque premier samedi généralement de vacances scolaires, mais aussi d'événements, comme là c'est la nuit du cirque, on propose un atelier adultes-enfants. Donc pour 12 couples adultes-enfants. Donc avec Neta Oren, qui est la jongleuse de la compagnie EAEO. Donc l'idée, c'est autour du jonglage, là, d'apprendre des mouvements, de comprendre aussi la création du spectacle et de son contenu. Et soit c'est avec son parent, soit un père, mère, ou un grand-père, ou un oncle, ou un ami. C'est pour ça qu'on les appelle adultes-enfants.
D'accord. Donc ensuite, pour continuer dans le week-end, samedi, toute la journée, à l'espace Interpénétration de l'IFRE, aura lieu plusieurs séances d'un spectacle en réalité virtuelle qui s'appelle Hold On, The Feel Concept. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui. Donc c'est en effet, là, c'est un spectacle assez particulier puisque donc de 10h à 17h45, en fait, il y a 8 séances qui durent une demi-heure. Et donc, on revêt un casque de réalité virtuelle. Et donc, on se met dans la peau d'une artiste de cirque qui fait notamment des figures aériennes. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans sa peau, de ressentir le trac, comment on avance au fur et à mesure dans le spectacle, comment on s'apprête à se lancer, donc à se risquer aussi. Et puis, y a peut-être une chute à un moment. Il y a tout ça que l'on vit vraiment dans la peau de cet artiste.
D'accord. Et du coup, est-ce que les nouvelles technologies ont une place particulière dans le cirque contemporain ?
Ben oui, en effet, il y a pas mal de spectacles où il y en a de plus en plus. Je pense aussi à des vidéastes, ou la musique aussi. Ouais, entre musique, vidéo. Et là, c'est la première fois, je crois, qu'on propose ça autour d'un casque virtuel. Donc, on verra ce que ça donne. Et c'est chouette d'avoir aussi cette dimension.
Donc, samedi aussi à 20h, toujours au milieu. C'est la soirée Magic Glouglou. Qu'est-ce qui se cache derrière ce drôle de nom ?
Magic Glouglou, alors en effet, c'est une soirée autour de la magie. Et Glouglou, c'est pour la dégustation de vin. Donc c'est une soirée vin et magie. Donc on va avoir deux artistes de cirque et magiciens. D'abord Johan Gauthier, qui fait du close-up, qu'on a accueilli souvent sur Aerop. Et puis Christophe Boisselier, qui lui est sommelier, mais également magicien, et qui donne des conférences régulières, voilà. Donc qui a choisi certains vins, donc des bons vins forcément. Il n'en dit rien, chacun goûte, et puis il essaie de faire deviner, mais tout ça avec magie. Et donc peut-être qu'il y a du vin qui disparaît de certains verres, je ne sais pas, je n'en sais pas beaucoup plus, ça va être surprise magique samedi soir au coin du feu, donc dans notre ferme du XVIIe siècle, là-bas au milieu.
D'accord. Donc enfin, du coup, pour le dernier jour, dimanche, vous proposez deux spectacles. D'abord à la MJC de Passé entre 10h et 11h, et c'est la compagnie du Ricochet qui propose « Je demain », un spectacle pour les 6 mois à 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'âge visé de ce spectacle ?
Oui, alors c'est assez rare en fait qu'on ait des spectacles de cirque pour les tout tout petits. Il en existe assez peu, donc là on a sauté sur l'occasion. Donc on va proposer deux représentations à 10h et 11h. Ça dure juste 20 minutes. Pour les 6 mois à 3 ans, c'est largement suffisant. Il y aura juste une jauge de 40 personnes à chaque fois. Donc il faut se rassurer aussi, s'il y a des parents qui écoutent. Voilà, on est vraiment sur des petites jauges, on est en sécurité, dans un confort. On va faire attention à tout ça. Et donc c'est avec la compagnie Ricochet, François Pestel. Donc lui, il va jouer avec ses deux mains, avec ses doigts, qui deviennent des personnages, qui se mettent en scène. Il y a aussi de la manipulation d'objets. Donc c'est tout doux, on est sur le jeu, l'apprentissage et la rencontre. Et ces objets, ses doigts, ses mains racontent une histoire qui montre aussi l'ouverture à l'autre et la confiance. Donc la confiance, elle est vraiment dans l'histoire, mais aussi dans le cadre du spectacle.
D'accord, c'est super intéressant. Donc, et enfin, le dernier spectacle, c'est de 10h30 à 16h à la salle polyvalente de Mélès. Et c'est la compagnie du Long Raccourci qui propose Don't Worry.
Alors oui, Don't Worry, la compagnie du Long Raccourci qu'on connaît bien, qu'on a accueilli plusieurs fois. Donc qui peut, selon les spectacles, qui est composé de différents artistes. Là, on a les fondateurs, donc Eugénie et Joseph. Donc qui se mettent en scène autour du jonglage, de l'acrobatie, de l'équilibre, et qui vont parler en fait de l'anatomie du corps et de leurs blessures, comment ils se sont blessés au fil de leur parcours de cirque, comment ils se sont remis de leurs blessures, et comment tout ça peut changer les spectacles qu'ils créent ensuite. Comment ils s'en remettent, comment ça devient au contraire des forces. Et donc voilà, tous les deux se répondent là-dessus sur leur corps, donc qui tordent, avec lequel ils jouent aussi au gré de différents objets de jonglage. Et bon, bah, c'est vraiment drôle. Il y a, voilà, le sujet peut paraître comme ça assez, assez difficile d'accès, mais pas du tout. On est vraiment sur le registre de l'humour et la légèreté. Et c'est rigolo, c'est chouette, ça bouge. On est vraiment, enfin, c'est vraiment captivant et c'est intéressant de voir comment un artiste de cirque aussi évolue. Parce que beaucoup d'artistes de cirque se blessent, évidemment. Mais comment ils en font une force ?
D'accord. Et du coup, bah, c'est aussi un moment de découverte du cirque pour les gens qui vont venir. Et est-ce que le public sera impliqué un peu dans les représentations, dans les spectacles auxquels il va assister ?
Alors là, on est sur la soirée, je dirais, du vin. Là, évidemment, ça va être très participatif. En plus, on n'est pas sûr, on ne sera pas avec deux artistes en scène qu'on regarde. En fait, les artistes vont bouger vraiment toute la soirée, venir voir les spectateurs qui vont réagir. Donc là, en effet, c'est très participatif. Donc, le spectacle virtuel, forcément aussi, là, c'est un spectacle qui bouge. On déambule au gré des mouvements de l'artiste, puisqu'on est dans la peau d'un artiste. Donc c'est pas du tout statique. Et puis sur les autres spectacles, on est plutôt spectateur. Mais je vois sur la sortie de résidence qu'aura lieu demain soir, à 18h au milieu, à chaque fois, il y a une rencontre après avec les artistes, puisque c'est une étape de travail. Les artistes sont vraiment preneurs des retours du public, parce que ça les fait avancer dans leur création, tout simplement.
D'accord. Donc, si vous voulez un échange avec les artistes, vous pouvez aller à la Nuit du Cirque. Et du coup, on a vu qu'une des rencontres était gratuite et que les autres étaient payantes, il me semble. Comment ça se passe pour l'accessibilité ? Est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels ?
Oui, donc en effet, demain, la sortie de résidence, c'est gratuit à 18h. L'atelier adulte-enfant, c'est 5€ par personne. Il y a un tarif sortir à 2,50€. Après, à l'IFRE, donc samedi, de 10h à 17h45, là, c'est 8,50€. Il n'y a pas de tarif sortir parce qu'on est hors Rennes Métropole. Donc, voilà, la soirée Magic Glouglou, bah, je peux déjà dire que c'est complet, en fait. Donc, bon,
ah, dommage.
Il n'y a que 40 places, mais on en fera d'autres. On en fera d'autres parce qu'on voit que ça s'est rempli hyper vite.
Ouais.
Donc déjà, ça met l'eau à la bouche, c'est lequel de dire. Enfin, le vin à la bouche pour les prochaines qui seront organisées sur la saison prochaine. La nuit du... Donc le long raccourci Don't Worry à Meules, ça c'est dimanche, on a dit à 10h30 et 16h, là il reste des places. C'est 9€ plein tarif, 7€ tarif réduit. Il n'y a pas de tarif sortir parce qu'on n'est pas non plus à Rennes Métropole, on est à Meules. Et puis, donc, à passer le matin pour le tout public de 6 mois à 3 ans, cela dit, si on n'a pas 3 ans, on peut venir quand même. Hein. C'est ouvert à tous. Et donc là, c'est 6€, c'est tarif unique. Et ça dure 20 minutes. Donc, on n'est pas sur des tarifs très élevés. Quoi.
Et je voulais juste revenir sur un truc avant qu'on se sépare. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mutation du cirque. Du cirque est toujours en mutation.
En perpétuelle évolution.
Qui change toujours. La création circassienne est très ancienne. Alors, comment elle a évolué ? Comment elle s'adapte à notre époque ? Est-ce que c'est dans les sujets qui sont abordés ? Est-ce qu'on parle aussi beaucoup du traitement des animaux ? Il y a de plus en plus de cirques sans animaux. Est-ce que c'est dans les... l'égalité femmes-hommes dans les compagnies
Qu'est-ce qui se passe ? En effet, tous ces sujets sont balayés quand on établit des programmations, des accueils en résidence, et puis c'est des réflexions nationales aussi dans le milieu du cirque. Donc c'est vrai que le cirque, il existe en fait depuis l'Antiquité. Hein. Les jeux du cirque, déjà on y était. Le cirque contemporain, lui, il a vraiment été mis en lumière dans les années 70, voilà, si on retrace rapidement l'histoire. Donc la différence, c'est qu'on n'est plus sur des familles avec le cirque traditionnel. On peut faire du cirque en faisant des écoles de cirque, tout simplement. Il y en a plusieurs qui existent en France. Et puis on n'est plus sur une succession de numéros, on est plutôt sur une vraie écriture avec des formes qui se mélangent, donc de la performance circassienne, mais mêlée à du théâtre, je disais, danse, des vrais sujets aussi qui sont évoqués. C'est pour ça que c'est en mutation permanente. Donc les animaux, en effet, il n'y a pas d'animaux sur scène dans le cirque contemporain. Quoique, on peut avoir quand même des chevaux, des chiens, des oiseaux, ça on peut en voir. Cela dit, donc, les animaux, je rebondis, sont interdits maintenant dans les cirques traditionnels aussi. Je crois que le cirque traditionnel s'adapte aussi. Là, je connais moins la question du cirque traditionnel, mais je sais qu'il s'adapte. Et puis, donc, hommes-femmes, dans ce milieu du cirque, c'est assez bien représenté, autant d'hommes que de femmes. Après, nous, c'est pas toujours évident. Je vois cette année, on a une programmation résidence pas mal d'hommes, et on va contrebalancer l'année prochaine. On va essayer en mettant plus de femmes, du coup. Parce que c'est pas toujours évident sur une année au gré des projets. Mais cela dit, l'année dernière, on avait plus de femmes. Donc voilà, ça contrebalance comme ça. On essaie d'y faire attention, vraiment. On a un petit tableau dans notre prog sur Excel. Vraiment, il y a hommes, femmes, et on met les nombres. On regarde tout ça. Et puis, je le disais en début d'interview, on fait attention, en effet, à ce qu'il y ait plusieurs disciplines qui soient représentées, à ce qui est vraiment une réflexion sur les enjeux, que ce soit assez inédit dans les formes et les réflexions qui sont accueillies.
Ok, très bien. Merci Isabelle Salvin.
Merci à vous.
D'être venue sur notre plateau. Donc la nuit du cirque, c'est dès demain et tout le week-end.
6h avant minuit.
Le soleil est revenu lundi à Rennes. On a passé quand même 10 jours consécutifs sans le voir. Entre le 31 octobre et le 8 novembre, il n'y a même pas eu une seule heure d'ensoleillement, un record pour la capitale bretonne. Du coup, on vous a préparé, enfin Léane vous a préparé une petite chronique sur la dépression saisonnière, bien sûr.
Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que beaucoup d'entre nous connaissent en ce moment. L'automne est bien là, les feuilles tombent, les températures baissent et notre morale parfois aussi. Et oui, je vais parler de la fameuse dépression saisonnière, celle qui nous fait voir l'arrivée de l'hiver sous un ciel un peu plus gris. Allez, on se détend, on respire et on va voir comment reconnaître ces petits coups de mou saisonniers et surtout comment s'en occuper. Alors, qu'est-ce que la dépression saisonnière exactement? Ce n'est pas juste un petit coup de blues. C'est un phénomène bien réel qui peut toucher beaucoup de monde quand la lumière naturelle commence à manquer. Avec la diminution de la luminosité, le cerveau produit plus de mélatonine, l'hormone du sommeil, et parfois un peu moins de sérotonine, l'hormone du bien-être. Résultat, fatigue, baisse d'énergie, irritabilité, et parfois même des envies de sucre qui nous font de l'œil un peu plus que d'habitude. Mais pas de panique, il existe des astuces simples et efficaces pour nous redonner un peu de couleur dans cette saison de grisaille. Premier réflexe, l'exposition à la lumière. Sortir en journée, même quand le ciel est couvert, peut vraiment aider. L'idéal, c'est de s'offrir une petite balade en extérieur chaque matin, même pour une vingtaine de minutes. Deuxième conseil, bouger. Alors, je sais, se motiver pour une séance de sport en automne, c'est pas évident. Mais l'exercice libère des endorphines, ces hormones qui agissent comme de véritables antidépresseurs naturels. Pas besoin de devenir marathonien, un peu de yoga, une marche rapide, ou même danser dans son salon, ça peut faire toute la différence. Et la troisième astuce, soigner son sommeil et son alimentation. L'automne, c'est souvent la saison où nos envies de comfort food explosent. Rien de mal à ça, mais essayons aussi de garder une alimentation équilibrée pour maintenir notre énergie. Et côté sommeil, garder une routine avec des horaires réguliers aide le corps à mieux s'adapter aux jours plus courts. Enfin, c'est important d'écouter ses émotions et ne pas hésiter à en parler autour de soi. La dépression saisonnière peut parfois nous isoler, mais mettre des mots sur ce que nous ressentons, que ça soit avec des amis, la famille ou même un professionnel, ça aide énormément. Alors voilà pour cette petite boîte à outils anti-déprime automnale. L'important, c'est de prendre soin de soi, d'accepter que notre énergie varie au fil des saisons et de s'autoriser à ralentir si besoin. Après tout, l'automne, c'est aussi la saison parfaite pour prendre un bon livre, se faire un chocolat chaud et apprécier un peu plus de douceur dans nos vies.
Merci Léane pour tous ces bons conseils. Un dernier petit message avant de se quitter.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Si vous écoutez 6 heures avant minuit tous les soirs, déjà, merci. Et peut-être que vous en avez marre de m'entendre dire ça tous les soirs. Mais en même temps, si vous écoutez le message tous les soirs et que vous ne l'avez toujours pas fait, c'est peut-être qu'il faut que j'en remette une couche.
Vous êtes responsable.
Voilà. Donc, c'est parti. Vous avez un message à nous faire passer.
On
un fait marquant près
de
chez vous
chaud.
Dont vous aimeriez nous faire part. Une déclaration d'amour ou un coup de gueule. Ou alors, un retour sur nos reportages. Laissez-nous un...
message
vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Votre message sera peut-être sûrement diffusé à l'antenne.
Il le sera.
Merci Marilyn pour la technique. C'était une première. C'était top. Bravo.
Merci.
On se retrouve lundi.
Si. La radio sauvage.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.